François Beauregard de retour. Je suis en compagnie de M. Simon Larose. M. Larose, vous êtes professeur au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour.
Bonjour, M. Beauregard.
On va parler ensemble des effets de la COVID-19 sur l'adaptation collégiale des étudiants en situation de handicap parce que vous êtes en plein cœur d'une étude importante que vous pilotez avec des collègues sur l'adaptation des moyens d'enseignement à ce stade-là dans les études supérieures.
Oui, écoutez, on a commencé en 2019, à l'automne 2019, une étude assez importante là, qui implique 10 collèges partenaires du réseau québécois. Il y a 4 collèges sur l'île de Montréal, 4 collèges dans la région de Québec, et il y en a 2 au centre du Québec. Et puis avec eux, on a établi un devis de recherche là, dans lequel on suit les étudiants, un échantillon de près de 1800, un peu plus de 1800 étudiants qui ont été nouvellement admis à l'automne 2019. Et le but de départ du projet, là, c'est d'examiner un petit peu les trajectoires d'adaptation de ces jeunes-là, de regarder un petit peu les liens avec les accommodements qu'ils reçoivent par les services adaptés des collèges et toute la question des pratiques inclusives en enseignement. L'idée, donc, était de suivre un échantillon qui surreprésente les étudiants en situation de handicap, c'est-à-dire des étudiants qui ont des troubles anxieux, troubles de santé mentale, troubles d'apprentissage, TDAH, là, qui sont les plus représentés là, dans les services d'aide dans les collèges. Et comme la pandémie est arrivée en 2020, ben, à partir de mars 2020, nous, on avait une deuxième collecte de données en avril 2020 au pic de la première vague, ce qui nous a permis là, de colliger des données là, en période d'adaptation là, au moment du pic de la première vague de la COVID.
Vous étiez à l'avant-scène et déjà équipé pour prendre des mesures. Juste pour reculer un peu, parce qu'il faut comprendre que la population des étudiants en situation d'handicap qui sont aux études supérieures, a cru beaucoup au cours des dernières années.
Oui, tout à fait. Il y a une augmentation exponentielle. Il n'y a pas tant d'augmentation en termes de diagnostic dans la population quand vous regardez la prévalence. Mais comme les services sont devenus de plus en plus accessibles et visibles, il y a de plus en plus d'étudiants qui font des demandes aux services d'aide. Il y a beaucoup d'étudiants qui font des demandes. Donc, il y a une croissance exponentielle de cette population-là qui font des demandes. Mais il reste qu'il y a à peu près le 2/3 des étudiants qui étaient en situation de handicap au secondaire, qui, une fois arrivés au collégial, ne font pas de demande d'aide.
D'accord.
Peut-être parce que, par autonomie, par volonté de dire, je suis un adulte maintenant et je vais me... Bien, on sait, le service, il est sur une base volontaire. Là, les étudiants doivent s'inscrire au service d'aide. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer un petit peu la différence.
Ça, c'est des étudiants en situation de handicap qui sont maintenant aux études supérieures, mais qui passent en dessous du radar des services d'aide. Mais peut-être qu'ils sont en dessous du radar volontairement.
C'est ça, exactement. Exactement ce qu'on pense. Mais certains prennent plus de temps à s'inscrire parce qu'ils disent, je vais essayer de me débrouiller, de rencontrer les exigences, d'être autonome, puis c'est tout à fait légitime. Je pense que ils entrent dans l'âge adulte, là, fait que pour eux, c'est de démontrer leur autonomie. Et parfois, ils vont s'inscrire à la deuxième session ou même au cours de la deuxième année, là, parce qu'ils voient que l'aide devient essentielle à ce moment-là.
Peut-être aussi que l'aide n'est pas égale d'une institution à l'autre. Certaines ont des pratiques qui sont différentes. Est-ce que dans votre échantillonnage, vous commencez à constater une certaine pratique hétérogène, à savoir que parfois c'est fait de telle manière, parfois c'est fait d'une autre façon, ou pas du tout?
Oui, il y a sûrement des différences. Ce qu'il faut, en fait, nous, ce qu'on a documenté, c'est plus l'hétérogénéité au plan des profils d'adaptation.
Des besoins.
C'est pas tous les jeunes qui souffrent de la COVID, là. Il y a même des jeunes qui ont montré qu'une amélioration en période de pandémie, c'est-à-dire que leur capacité à rencontrer les exigences des enseignants, des programmes de formation, s'est amélioré entre leur arrivée à l'automne et la fin de la première année qui correspondait au pic de la première vague. C'est pas une majorité, hein, je vous dirais. C'est à peu près 9 à 10 % des jeunes, même pas, là. C'est à peu près 4 à 5 % des jeunes qui ont vu leur trajectoire d'adaptation s'améliorer. Par contre, vous avez à peu près 60 % des jeunes là, pour qui ça a été difficile. C'est une majorité, bien que notre échantillon surreprésente les étudiants en situation de handicap, donc c'est pas étonnant de voir des chiffres aussi importants.
Là. Parce que pour des personnes qui souffrent de troubles d'anxiété, entre autres, de se retrouver tout d'un coup face à une méthodologie qui est complètement différente de ce que l'on a toujours connu, et bien là, évidemment, c'est pas évident. Là. C'est assez anxiogène.
Oui, souvent, là, on dit que la pandémie va exacerber les états difficiles des gens qui ont des troubles anxieux. Je vous dirais que c'est une donnée qui n'est pas clairement mise en évidence à ce jour-là. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a des jeunes, par exemple, ceux qui vivent un spectre de l'autisme, là, mais qui sont hautement fonctionnels, donc qui peuvent accéder à des études postsecondaires. Ils apprécient beaucoup l'enseignement en ligne, l'enseignement à distance, parce qu'ils sont un petit peu à l'abri des codes sociaux là, qui sont implicites dans l'éducation. Là, et pour eux, c'est une situation. Et même les parents apprécient ce mode-là quand ils ont les ressources à la maison pour accompagner leurs jeunes.
Dans votre échantillonnage d'étudiants en situation de handicap, on a parlé des étudiants qui vivent des troubles associés au spectre de l'autisme, d'autres des problèmes d'anxiété. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des troubles moteurs ou de la perception, à savoir un handicap visuel ou un handicap auditif?
Oui, on a des handicaps visibles, non visibles, on a des handicaps moteurs. Je vous dirais que c'est une minorité. Puis de façon générale, quand on regarde les portraits d'adaptation, évidemment, là, on fait une grande inférence parce qu'on a moins de jeunes qui sont représentés dans ces handicaps-là, là, mais eux semblent avoir moins de difficultés au plan de l'ajustement scolaire. Là. Ceux qui sont les plus affectés, c'est beaucoup les troubles de santé mentale et à moindre, mais aussi de façon importante, les troubles anxieux. Tous ceux qui ont des troubles moteurs, dans nos données à nous, là, les effets sont relativement minces là, dans leur cas.
Donc, vous avez commencé votre étude avant que la COVID-19 change la vie de tout le monde. Puis, vous avez eu une prise d'échantillon en pleine première vague.
Oui, on en a une troisième qui s'en vient en avril 2021.
D'accord,
donc,
très bientôt.
On va, en espérant qu'on sera à la fin complètement de la deuxième vague et qu'on ne sera pas en troisième vague. Socialement, là, on l'entend, c'est souhaitable. Au plan de la recherche, si on a une troisième vague, ben, on sera dedans puis on va re-questionner les jeunes à ce moment-là. Et je vous dirais que les jeunes sont très intéressés à participer au projet puisqu'entre le premier temps de mesure et le deuxième temps, on a eu plus de 80 % de taux de réponse.
D'accord.
Ce qui est quand même très important dans une étude longitudinale là, où on suit les jeunes dans le temps, là. Alors, ça montre leur intérêt à parler de leur situation puis à partager leur point de vue sur les services qu'ils reçoivent puis sur ce qu'ils vivent en milieu collégial.
Quelle est la finalité de l'étude? Qu'est-ce qui va en ressortir? Améliorer la capacité d'accueil et les méthodes d'adaptation qui sont pratiquées en l'étude supérieure?
Oui.
Mieux réagir en temps de crise? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va avoir apprises? Parce que finalement, le télétravail ou la télééducation peut avoir des façons bénéfiques qui n'étaient peut-être pas désirées, mais qui en fait existent.
Oui, tout à fait. Il y a comme trois volets. Il y a un volet sur toute la question des accommodements, les services d'aide fournissent. Là, ils ont en mode urgence. Les services d'aide ont dû fournir des accommodements en ligne. Ça va revenir maintenant en présentiel. Donc, comment les étudiants ont réagi à ça, comment ils ont perçu utile les accommodements reçus en période de pandémie. Il y a ce volet-là. Il y a un deuxième volet qui est la question de l'inclusion, des pratiques inclusives des enseignants. On a questionné beaucoup les jeunes sur leur perception de l'inclusion en classe. Et ce qu'on observe, mais c'est vraiment des données préliminaires, parce qu'on a fait des entrevues avec plusieurs jeunes en situation de handicap. Et ce qu'ils nous mentionnent, c'est qu'ils perçoivent plus d'inclusion depuis l'arrivée de la pandémie. Peut-être parce que les enseignants fournissent des évaluations sous différentes modalités, des enseignements sous différentes modalités, préparent des capsules d'avance qui rencontrent des besoins importants là, d'étudiants en situation de handicap qui doivent aller à un rythme différent.
On peut dire qu'à toute chose, malheur est bon, on aura fini par peut-être apprendre quelque chose de la pandémie.
Oui, Tout à fait, exactement.
Je vous remercie. Je vous remercie, M. Larose. On va suivre ça et on aimerait voir les résultats, la conclusion. Ça va être publié quoi, l'automne prochain?
Exactement. Ouais, on a encore une année, là, puis on va déposer au Fonds de recherche du Québec.
On s'en reparle. M. Simon Larose de l'Université Laval. Bien.